Monsieur Gérard Pella, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes pasteur à Vevey, membre de l'ERV, et nous allons parler aujourd'hui de la pétition qui a été déposée par un certain nombre de fidèles de l'ERV auprès des autorités du synode concernant la cérémonie de bénédiction pour les couples partenariés.
Si vous permettez juste déjà une correction, enfin, le synode n'a pas décidé que ce serait une bénédiction. Ça, c'est encore une chose qui doit être précisée. Ce qui a été décidé, c'est le principe d'un rite, et au fond, le contenu du rite, la forme du rite est encore à définir.
Voilà, donc la pétition, nous sommes d'accord, porte non pas sur la façon dont le rite sera célébré, mais sur la question d'un rite ou non. D'accord. Alors, évidemment, moi je ne suis pas spécialiste du fonctionnement de l'ERV, mais donc il y a eu une réunion, une votation des membres du synode, c'est bien ça, sur cette question.
Oui, le synode du 3 novembre alors a décidé ce principe d'un rite.
Donc dans la mesure où la procédure semble relativement démocrate, comment se fait-il qu'il y ait une pétition par la suite?
Bien, il y a toute une partie, au fond, des paroissiens et des pasteurs qui sont gênés par cette décision pour plusieurs raisons. Déjà sur la façon dont ça a été pris, il y avait eu une consultation large en 2004 qui concernait justement plusieurs questions liées à l'homosexualité, où pratiquement toutes les paroisses et les conseils ont dit oui à l'accueil des homosexuels. Il y avait déjà un peu plus d'hésitation sur les ministres homosexuels, et puis il y avait un refus très marqué concernant au fond, un rite de mariage pour homosexuels. Je crois que le mot de mariage était utilisé. Donc en tout cas, à propos de cette question-là, il y avait une très forte opposition. Et le synode de novembre, alors c'est bien clairement démarqué de l'idée d'un mariage homosexuel. Il a même refusé l'idée, au fond, de bénédiction pour un couple homosexuel. Il a gardé l'idée de rite pour couple homosexuel. Mais cette idée de rite, au fond, fait problème encore à une partie de l'Église.
Oui, parce que voilà, on sent effectivement qu'il y a un problème. D'un côté, vous avez des pasteurs comme Madame Lynne Deprat, qui est membre du conseil synodal, qui semble dire que maintenant, enfin, elle dit une chose assez étonnante. Elle dit que l'évangile n'est pas une règle de vie. Alors, est-ce que c'est une pensée communément admise par l'ensemble des fidèles de l'ERV, ou est-ce qu'il y a une fracture à cet endroit-là?
Oui, c'est vrai qu'il y a, alors depuis toujours, il y a différentes théologies à l'intérieur de l'Église réformée, une théologie qui sera plus libérale, une théologie qui sera plus conservatrice ou orthodoxe. Et alors, une des raisons aussi qui fait réagir ceux qui sont gênés par la décision du synode, c'est de dire en fait une question qui est finalement d'ordre théologique a été tranchée par un vote démocratique. Mais comme si c'était une question de budget, comme si c'était une question d'organisation, alors que pour des questions théologiques, il faudrait une procédure qui est plus fine et plus respectueuse des avis des minorités.
Effectivement, on sent un malaise. Est-ce qu'on peut mettre finalement la parole de Dieu au vote?
Voilà, c'est vrai que là, il y a vraiment un problème au fond de principe.
Parce que pour que l'on comprenne bien, un rite donc serait une forme de reconnaissance, mais est-ce que ça revient à constituer une reconnaissance des homosexuels en tant que tels? Ou alors des homosexuels en tant que prétendants à la cellule familiale au même titre que les hétérosexuels. Est-ce que le problème se situe là ou est-ce qu'il y a encore autre chose?
Bien, là encore, il y a au fond diverses façons de comprendre l'impact du rite, hein. Certains disent, mais on ne prononce aucune appréciation, aucune validation du couple en ayant un rite. On demande simplement la présence de Dieu avec ces personnes, et ça, on peut l'attester, quel que soit le type de couple. Pour les opposants, au fond, le fait même d'offrir un rite à un couple est une façon, au fond, de valider le couple homosexuel, de lui donner une caution spirituelle ou symbolique. Et manifestement, dans le contexte européen, qui est le nôtre en ce moment, c'est difficile de ne pas voir le pas suivant qui serait celui justement de la reconnaissance du droit à l'adoption ou.
Oui, mais même avant la question du droit à l'adoption, est-ce que les partisans d'un rite, les partisans d'une reconnaissance, disons, pensent que les gens qui vont demander ce rite ou cette reconnaissance ne vont pas en faire quelque part plein usage? Est-ce qu'ils ne veulent pas se comporter publiquement comme étant mariés dans les joies, j'ai envie de dire, de l'accomplissement de l'acte conjugal, si on peut dire, est-ce que c'est quelque chose qui ne vient pas chiffonner un petit peu quelques passages qu'on peut trouver dans la Bible?
Vous l'avez dit, effectivement. Je crois que c'est effectivement l'opinion de ceux qui contestent cette décision, c'est de dire en fait, c'est trop, au fond, résolument contraire à certains passages bibliques. Autant l'accueil de personnes homosexuelles dans l'Église nous semble vraiment pouvoir être justifié par les passages bibliques qui disent de dépasser tout jugement, hein, de ne pas se poser en juge des autres. Le fait que la grâce du Christ soit offerte à tous le plus généreusement et largement, donc ça permet vraiment d'accueillir les personnes homosexuelles. Par contre, il y a des passages bibliques qui sont vraiment très critiques concernant justement la pratique de l'homosexualité. Et là, d'offrir un rite à un couple homosexuel, c'est vraiment pour nous contraire au texte biblique.
Donc on vous comprend bien, il s'agirait de reconnaître l'homme tel qu'il est, mais pas forcément les actes de certains hommes. Parce que, évidemment, on a conservé une image des églises protestantes comme toujours très attachée d'abord à la pratique de haute vertu morale, et puis ensuite vraiment à la lettre des textes. Et on sent tout d'un coup une mouvance assez importante, apparemment elle est même majoritaire actuellement, qui semble disposée à relativiser, si vous voulez, la lettre du texte précisément, et à carrément en venir à, peut-être pas la détourner, mais à en modifier le sens. Est-ce qu'on n'arrive pas quelque part vers une mutation ou une division, voire peut-être une disparition de ce qu'a pu être l'Église réformée pendant des décennies?
Oui, en tout cas, disons que c'est un processus qui n'est pas récent, hein. Mais il prend une ampleur, effectivement, qui, là, touchant une question aussi très sensible sur le plan personnel, hein, et puis très, très sensible sur le plan de la société en ce moment, manifestement, ça fait apparaître ces clivages théologiques. Et ça met en question, effectivement, au fond, l'identité réformée qui dit vraiment reconnaître l'Écriture sainte comme seule autorité.
Parce qu'à entendre la pasteur Lynn de Praa, il appartient à l'Église vaudoise d'abord de suivre le monde, de s'adapter au monde pour toucher plus de gens. Est-ce que c'est une vision que vous partagez?
Non, alors je le formulerai en tout cas pas comme ça. Ce que je partage au fond, c'est ce souci de tenir compte des problématiques et des besoins de nos contemporains, mais d'y répondre avec un évangile qui au fond, n'est pas à bien plaire. C'est vrai que sur le plan purement humain, moi, je souhaiterais pouvoir accéder à la demande de couple homosexuel, mais pour moi, ce serait au fond passer par-dessus les textes bibliques. Donc, je crois qu'on est en tension entre une fidélité au texte biblique et puis une ouverture aux personnes. Et cette tension, elle produit des réponses différentes suivant les théologies, suivant les moments de l'histoire. Et là, pour cette question-là, nous disons, la réponse adoptée par le synode va trop loin.
On vous entend bien, mais est-ce que la notion même de couple, dans le sens premier et littéral du terme de couple homosexuel, n'est pas déjà une oxymore aux yeux des écritures et de leur compréhension. Est-ce que les opposants au rite ne sont pas déjà allés trop loin en admettant qu'on puisse débattre d'une reconnaissance, quelle qu'elle fût, d'un couple homosexuel?
Parmi les opposants, peut-être qu'il y aurait aussi là des variantes, hein. Certains seraient alors vraiment tout à fait et radicalement opposés à l'idée, au fond, de couple homosexuel. D'autres disent, mais au fond, c'est une réalité. Et la question est de savoir, au fond, quel type d'accompagnement spirituel on peut leur offrir.
Oui, mais voilà, est-ce que finalement la révélation oblige? Est-ce qu'il y a une chose, une vérité à laquelle il faut croire, à laquelle il faut adhérer? Est-ce qu'il y a un magistère unique pour transmettre cette vérité? Ou alors est-ce que le libre arbitre, qui est l'essence même de la religion réformée, permet finalement toutes les interprétations? Est-ce que finalement les deux camps n'ont pas raison?
Écoutez, alors si je pouvais enfin, être en position de trancher moi-même, je serais vraiment au-dessus de la mêlée, hein. Moi, je pense que ceux qui ont au fond, décidé d'offrir un rite n'ont pas raison, sont allés trop loin au fond, dans cette liberté d'interprétation.
Et vous pourriez le fonder sur les écritures? Comment, parce que ceux qui diront le contraire diront, mais cher monsieur le pasteur, je pense que vous-même n'avez pas raison, et voilà, aimez-vous les uns les autres, et tout le tintouin. Je veux dire, qu'est-ce qui permet de savoir? Je veux dire, la religion, c'est quand même ce qui permet de relier l'homme à Dieu. Dieu est une notion infinie, infiniment parfaite. Il doit bien y avoir une notion de vérité qui soit fixe.
Alors, au fond, dans ma compréhension, hein, de la théologie réformée, au fond, toutes nos interprétations sont relatives. La révélation est vraiment, absolue, mais nous n'avons jamais que des interprétations qui sont relatives de cette révélation. Donc, j'accepte la discussion. J'accepte qu'on me dise que c'est mon interprétation qui est fausse, mais au fond, il faut pouvoir à l'homme le montrer par l'écriture, et pas juste en me disant, mais oui, mais vous avez une interprétation qui est arriérée, plus personne pense comme ça aujourd'hui, ou bien il faut être moderne, il faut être ouvert. Ça, c'est des arguments qui ne sont pas pertinents en termes de théologie réformée.
Parce que vous pensez qu'on assiste à une forme de volonté d'évolutionnisme de la doctrine réformée?
On peut le dire comme ça, oui, au fond, d'adaptation pour être plus au goût du jour.
Mais est-ce que dans ce cadre-là, finalement, les évolutionnistes ne sont pas plus avancés que ceux qui mettront encore plus de temps à évoluer? Est-ce que cette logique-là ne va pas l'emporter par consensus, finalement?
Bien, disons que c'est pour l'instant ce qui semble se passer, mais alors j'hésite sur le mot consensus parce que justement nous utilisons font le mot consensus là dans la pétition ou dans la déclaration de QG. Dans un sens assez technique pour évoquer au fond cette procédure qui a été mise au point par le Conseil œcuménique des Églises pour traiter des questions délicates. Et au fond, le consensus, c'est pas l'unanimité où il faudrait que tout le monde pense la même chose, mais c'est au fond une procédure qui permet de travailler des questions en assemblée, en respectant les minorités.
Donc en fait, ce que vous reprochez au synode, c'est une forme de dictature de la majorité, quelque part.
En le disant de manière un peu caricaturale, on peut arriver à ça. On a découvert, au fond, au travers de cette question, que notre Église n'était pas si démocratique que ça, puisqu'il n'y a pas de droit de référendum. Justement, donc, la déclaration de QG, signée par près de 3 000 personnes, n'a en fait aucun poids juridique dans le processus de décision. Et ça, par rapport, au fond, à la politique, c'est un déficit démocratique, puisque une décision prise, au fond, ne peut plus être contestée par la base.
Alors justement, au vu de ces difficultés, comment voyez-vous la position d'autres églises qui ont un autre mode de fonctionnement, comme par exemple les catholiques? pour qui la question ne se discute pas, elle se reçoit.
Alors, sur le contenu, faudrait distinguer peut-être le contenu de la position, puis le processus, au fond. Sur le processus décisionnel, il semble effectivement que l'Église catholique a une toute autre façon de procéder que nous. Sur le processus, moi, je reste très formé en disant je préfère que ce soit effectivement un synode avec ses imperfections, avec ses allers et retours, qui puisse décider d'une question, plutôt que ce soit une personne qui applique la décision qui vienne de la centrale à Rome. Sur la question du processus. Maintenant, sur la question du contenu, je suis obligé de constater que la position catholique correspond mieux à la position biblique que celle que nous sommes en train d'adopter.
Comment pensez-vous que votre pétition, votre déclaration va être reçue, ou comment a-t-elle déjà été reçue par les autorités du synode?
Alors là, au fond, nous avons peu d'indices, hein. Au fond, l'accueil du président du synode a été plutôt chaleureux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il a accepté qu'on se voie. Et quand on lui a remis la pétition, il l'a accueilli de manière positive. Maintenant, le discours officiel au fond du conseil synodal, c'est de dire effectivement, on ne sait pas trop quoi faire de cette pétition, puisqu'elle n'a pas de statut juridique, hein, dans le fonctionnement de l'Église. Donc le conseil synodal et le synode ne sont pas obligés de la traiter, hein. Là, on est très démunis. Par contre, ça nous semblait très important, au fond, de pouvoir exprimer ce désaccord et aussi le quantifier, c'est-à-dire que montrer que ce n'était pas juste quelques évangéliques un peu perdus dans leur coin, mais que c'est la réaction vraiment de beaucoup de gens dans nos paroisses et dans pratiquement toutes les paroisses. Donc ça, c'est important que le synode et le conseil synodal l'entendent.
Et on sait que c'est précisément ce type de question qui a provoqué des fois des dissensions, voire des sécessions irréparables au sein de certaines églises comme l'église anglicane. Est-ce qu'il y a un risque à terme, si la situation reste là, que l'on assiste à des départs, ça c'est possible, mais à une véritable sécession de tout un pan de l'église réformée du canton de Vaud?
Alors, des départs, ça c'est sûr. La sécession, j'aurais beaucoup de peine à avoir un diagnostic sur la question. C'est possible.
Donc selon vous, on va parvenir à s'entendre, les uns vont se ranger à la vie des autres.
Selon moi, au fond, je crois que tout le monde gagnerait à essayer de, non pas de se ranger à l'avis des autres, hein, mais à travailler justement avec cette méthode du consensus qui élaborerait des points d'accord et des points de désaccord. Donc de reconnaître plus explicitement là où il y a vraiment accord et là où il y a vraiment désaccord. Et au moment où vous vous sentez vraiment respecté dans votre désaccord, vous n'êtes plus obligé de partir, hein. Vous pouvez articuler votre différence. Je pense que c'est cette formule-là qui permettrait un bon avenir pour l'Église réformée.
Vous faisiez allusion tout à l'heure au corollaire de l'adoption d'enfants par les homosexuels, qui est finalement quelque part la prochaine tranche après la reconnaissance du mariage. Si l'on prend la méthode de Madame Duprat, qui est de s'adapter au monde, y a-t-il une limite dans l'adaptation? Est-ce que un jour vous pensez que même pour la majorité du synode, même pour Madame de Prat, l'écriture sera plus importante que la dernière mode?
Disons là, vous me mettez en situation délicate de me prononcer sur ce qui va se passer pour Madame Desprats.
Parce qu'elle semble quand même représenter la tendance majoritaire. Je veux dire, maintenant, le monde réclame un certain nombre de choses et il revient de toute évidence à Léa Hervé de satisfaire ses demandes. Or, apparemment, à l'intérieur même de l'ERV, il y a des oppositions parce qu'il y a quand même, si vous voulez, un fond statutaire qui sont les Écritures. Et vous-même, qui êtes, disons, représentant des dépositaires de la pétition, semblait dire que dans la mesure où on est admis en tant qu'opposant, tout va mieux, et qu'on va de toute manière finir par arriver à s'entendre. Il n'est pas question de se séparer sur cette question. Alors, est-ce que ça va être le règne d'un consensus qui va finalement se fonder exclusivement sur le fait qu'on oublie ce qui nous divise pour ne se souvenir que de ce qui nous rassemble et qu'on met de côté ces écritures qui peuvent être parfois tellement gênantes?
Alors ça, ce serait un scénario catastrophe, effectivement, ce que vous décrivez là. Si effectivement le fruit de tout le processus, c'est de laisser tomber les écritures qui nous dérangent. Et le risque est réel, hein, c'est vrai. Maintenant, moi, je ne suis pas sûr que la majorité de l'Église partage la position de Madame Desprats telle qu'elle le formule. Je pense que, au fond, cette décision, elle a été nourrie par ce qu'il y a peut-être de meilleur chez les réformés. C'est un souci d'ouverture, d'accueil des autres. Et parmi ceux qui ont voté oui à l'idée de rite, il n'y a pas forcément la conscience de transgresser l'écriture. Donc, s'ils étaient mis clairement devant cette question, au fond, de dire est-ce que c'est l'écriture ou bien est-ce que c'est le monde qui est déterminant, je pense quand même que la majorité choisirait l'écriture.
Est-ce que finalement cette discussion sur les Écritures, j'imagine qu'elles ont été citées pendant les discussions du synode, mais est-ce qu'il y a eu, selon vous, une discussion de fond, Bible en main, sur ce que le synode s'apprêtait à faire?
À ma connaissance, au fond, cette discussion, elle a eu lieu dans les documents préparatoires, mais elle n'a pas eu lieu dans le synode lui-même.
Vous pensez que c'est ça qui a manqué aux pétitionnaires?
C'est un des éléments.
Entendu. Mais écoutez, monsieur le pasteur Gérard Pella, vous êtes pasteur à Vevey, nous vous remercions de vos réponses.
Je vous en prie, merci et bonne journée à vous.